Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on arpente les dessous du web, on tente de pénétrer la communauté des codeurs et des codeuses, ces individus qui détiennent au bout de leurs doigts les clés d'un langage informatique qui façonne notre monde physique. Le code est partout et il gouverne les objets connectés qui nous entourent. Loin des clichés encore tenaces du geek absorbé par son écran, comment peut-on définir précisément le métier de codeur ? Quelles sont les compétences requises et les offres de formation qui tentent de rendre la profession plus accessible. Le secteur est sous tension et souffre d'une pénurie de main-d'œuvre à l'heure où toutes les entreprises du monde doivent accélérer leur transition numérique. Nous pourrons faire le bilan du projet des écoles 42 qui prône une plus grande accessibilité tout en essayant de comprendre la permanence du manque de femmes. Un écosystème qui accueille depuis quelques années le mouvement No Code qui permet, selon sa promesse, à tout à chacun de créer des sites ou applications sans connaître une ligne de code. Peut-on parler d'une démocratisation et quelles sont les limites de ce nouvel accès? Enfin, à l'heure de l'intelligence artificielle générative, ce métier est-il menacé? Beaucoup de questions et trois invités en studio pour décoder les enjeux d'une profession encore mystérieuse. Nathalie Azoulay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine et traductrice. Nous vous devons le roman Python, sorti en début d'année aux éditions POL. Un récit passionnant qui nous ouvre les portes des soutiers du net, comme vous les désignez. Vous pourrez nous faire part de votre fascination pour les codeurs et de votre rencontre en tant que romancière avec cette autre langue, celui de l'informatique, ce langage informatique. Pour mener à bien votre ouvrage, vous êtes partie à la rencontre des codeurs et codeuses, notamment à l'école 42. Olivier Crozet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'innovation pédagogique à l'école 42 qui dispose de 7 campus en France. Vous pourrez nous préciser les objectifs de cette formation singulière, née en 2013 sous l'impulsion de Xavier Niel. Vous pourrez revenir également sur l'histoire du métier et analyser ses évolutions et perspectives au moment où trône l'intelligence artificielle. Erwan Kézar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de Contournement, un organisme de formation spécialisé dans le no-code. Co-auteur également de No-code, une nouvelle génération d'outils numériques publiée aux éditions Erol, c'était en 2022. Vous pourrez nous définir le mouvement No Code qui gagne du terrain en France, surtout depuis la pandémie, nous dire si cette offre entre ou pas en concurrence avec les formations d'apprentissage du code et en quoi le No Code peut susciter un nouvel espoir, un nouveau pouvoir d'agir même dans le secteur du numérique. Au programme également une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous parlera d'autres œuvres littéraires qui s'emparent des mondes virtuels. Quant à Juliette Deveau, elle nous livrera son journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
Bon François, je vais tenter ma chance. Ouais, il y a très longtemps j'ai programmé en basique. On va voir ce qu'il me reste.
Grace Murray Hopper, elle a constaté qu'on peut programmer avec les chiffres, mais ce serait beaucoup plus facile si on utilise les mots. Et c'est elle qui a créé le langage COBOL.
Un navigateur web représente environ 10 millions de lignes de code. Le logiciel embarqué dans une voiture moderne, 100 millions. L'ensemble des logiciels de Google, 2 milliards.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs.
Ça va, t'es sûr ?
J'ai besoin de l'algorithme.
Marc.
J'ai besoin de l'algorithme.
Apprendre le code, c'est pas si compliqué que ça.
Alors, c'est le quatrième jour. On a l'impression que ça fait 2 mois qu'on est là. On dort pas, genre 8 heures par jour, une fois tous les 3 jours. Puis ben voilà quoi, c'est le paradis.
On est tellement habitué juste à appuyer sur un bouton et ça marche qu'on oublie que derrière, il y a des armées de personnes qui ont passé avec passion leur temps pour faire en sorte que l'objet finalement fonctionne.
C'est intéressant de savoir que vraiment l'intelligence elle est chez vous, elle n'est pas dans la machine quoi, qu'une machine c'est vraiment con. Elle est bête et très patiente, donc vous pouvez lui dire 15 fois des trucs qui ne fonctionnent pas, elle ne va pas s'énerver, vous pouvez continuer, vous pouvez recommencer et voilà.
Alors Nathalie Azoulay, on va démarrer avec vous, car vous incarnez peut-être à cet instant une partie de nos auditeurs et auditrices, comme peut-être des femmes de 50 ans qui ont entendu parler de code, de codeurs, sans vraiment savoir qui ils sont. Que saviez-vous du métier avant d'entreprendre ce récit ?
À peu près rien. Je ne savais que des images, des silhouettes, des clichés que j'avais vus dans des séries au cinéma. Et puis dans la vraie vie aussi, j'avais vu des silhouettes de jeunes hommes vissés à leurs machines et à leurs écrans, dont on m'avait dit qu'il codait. Et donc c'était le mystère absolu, et je me suis dit c'est pas possible de rester aussi interdite devant ce mystère, il va falloir que je m'en occupe et que je regarde ce que c'est.
Ouais, souvent vous êtes très sensible aux silhouettes, hein, qui sont parfois des déclencheurs pour mener justement un récit. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez ces soutiers du net, hein? C'est une très belle analogie que vous prenez dans votre roman.
Ben en fait, je me suis rendu compte que sous toutes nos activités, y compris sous nos activités littéraires, c'est-à-dire sous mes livres en l'occurrence, il y avait une flotte graphique qui était là et qui était invisible ou invisibilisée, je ne sais pas comment dire, et que on ne soupçonnait même pas quand on n'était pas du tout averti. Et donc j'ai voulu entrer dans cette soute pour voir ce que c'était que cette flotte graphique qui ressemble quand même étrangement à la nôtre. Mmh. C'est-à-dire c'est quand même un ensemble de signes qui sont des lettres, des chiffres et des signes de ponctuation. Et c'est pas la même chose qu'une autre technique en fait qui utilise quand on utilise l'électricité, etc. Il y a pas de signe graphique en dessous. Donc là, ça m'étonnait déjà beaucoup. Et puis, ce qui me fascinait chez ces jeunes codeurs que j'apercevais, c'était l'intense concentration, l'intense immobilité. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga et je suis fascinée par les gens qui ne bougent pas, mais qui en même temps bougent énormément à l'intérieur de leur tête. Et donc, j'avais envie de savoir comment ça bougeait, pourquoi ça bougeait, et ce que ça faisait de rester comme ça immobile devant un écran pour essayer de résoudre en permanence des problèmes.
C'est vrai qu'on a tous l'image un peu de ce codeur très immobile, mais en même temps avec des doigts qui pianotent à une vitesse folle, des signaux dont on ne comprend pas grand-chose sur les écrans, et on se dit qu'il est en train de naviguer dans un autre monde, en connexion d'ailleurs avec d'autres, hein, c'est-à-dire qu'il a beau être seul devant son écran, il est très connecté. Olivier Crouzet, vous êtes pas tout à fait dans la littérature, vous êtes dans le code, vous êtes le directeur, je l'ai dit, de l'innovation pédagogique à l'école 42. Comment on peut définir le métier de codeur ?
Le métier de codeur, on va le définir comme la personne qui va mettre en œuvre justement ces fameuses lignes de code, ces fameux morceaux de programme pour pouvoir arriver à faire fonctionner l'outil, pour pouvoir arriver à faire fonctionner le site web, pour pouvoir arriver à faire fonctionner l'application sur son smartphone. Aujourd'hui, on est dans un monde où n'importe quel citoyen est complètement entouré de tout un tas de codes un petit peu partout. Il y en a même dans sa machine à laver, il y en a dans sa brosse à dents connectée. Et il va falloir pouvoir mettre des lignes de code, il va falloir faire en sorte que ces outils-là fassent ce pourquoi ils sont attendus dans leur vie de tous les jours. Et ça va demander effectivement d'avoir des gens qui vont être capables de indiquer très précisément dans tel cas de figure, il va falloir faire telle action, dans telle situation, il va falloir réagir de cette façon-là, si l'utilisateur va appuyer sur un bouton, si l'utilisateur va vouloir ouvrir une fenêtre ou fermer une fenêtre, il va falloir déclencher toute une autre série de calcul, toute une autre série d'affichages, et de faire en sorte que l'ensemble aboutisse à une forme de logique pour l'utilisateur final qui, lui, attend un résultat concret. Je veux avoir ma liste de clients qui soit prête à être triée, imprimée et limite envoyée par la poste pour mes factures du mois, par exemple. Ça peut être...
Juste coder, programmer, c'est la même chose ou il y a une distinction à faire entre coder et programmer, ou est-ce qu'on parle globalement de la même chose ?
On parle globalement de la même chose, j'ai envie de dire.
Erwan, ça vous fait sourire cette distinction sémantique ?
Ça me fait sourire parce que c'est hyper intéressant comme débat. C'est-à-dire que, en effet, aujourd'hui, pour interagir avec des machines numériques, on n'avait que le code pour communiquer avec elles. On parlait dans leur langage. Mais aujourd'hui, le no-code, en fait, ça désigne, avec un mot un petit peu, on va dire, marketing, la programmation visuelle. C'est-à-dire que visuellement, via des interfaces visuelles, où je clique sur un bouton, où j'ai du langage humain, je peux commencer à construire du logiciel, des solutions pour ma TPE, des outils pour automatiser des tâches répétitives dans mon association. C'est-à-dire que, et quand je souriais, c'était pas du tout ironique, c'est parce que souvent, on a cette conception de code égale programmation. Le code peut servir à faire de la programmation, mais quand je fais du code morse, je ne programme pas, j'encode du texte. Et là, aujourd'hui, ce que je trouve hyper intéressant, notamment sur le sujet de cette émission, ce qui est en train de se passer dans la démocratisation des technologies, c'est que ça peut donner accès au commun des mortels, c'est-à-dire aux non-informaticiens, à comprendre ces briques du web, à comprendre ce qu'on peut en faire, à comprendre comment les construire.
D'où l'idée justement du contournement, hein, c'est-à-dire qu'on contourne potentiellement ce côté un peu âpre aussi, hein, du code. Nathalie Azoulay en a fait l'expérience, puisqu'elle s'y est essayée, sa narratrice, mais elle-même aussi a tenté de coder, et vous avez compris que c'était assez complexe ce monde.
Je crois que quand on n'est pas habitué à la logique informatique et à la logique mathématique, on a un peu de mal. Mais bon, après, j'ai un tout petit peu entrevu ces logiques et je suis pas allée très loin dans le maniement du code, mais j'ai un tout petit peu démystifié. Mais je voulais revenir sur ces deux mots, coder, programmer, oui. Parce que j'en parle dans mon livre. En fait, coder, il a été, je crois, dans les années 40 utilisé, puis il est tombé en obsolescence, dans les oubliettes, et il est revenu après dans les années 80. Et je crois qu'en fait, il a une charge symbolique très forte, parce que code, c'est, vous dites, c'est encodé, c'est décodé, c'est mystérieux, en fait. Il y a une opacité qui va avec le mot code, qu'on n'entend pas dans programmer, qui est un terme beaucoup plus machiniste, mécanique. Et je crois que c'est pas pour rien qu'il revient dans les années 80, quand il arrive avec ses silhouettes d'adolescents qui jouent, ou qui, en tout cas, codent dans leur chambre, enfermés, et qui se mettront à jouer aussi à Wargames et à avoir accès à une puissance. Donc je pense que ce mot de code, il n'est pas anodin, même si aujourd'hui, on lui réserve des variantes et vous lui réservez cet accueil de nos codes. Je pense qu'il est encore très puissant, en fait, comme dans l'imaginaire.
Il est très puissant dans l'imaginaire, parce qu'il a effectivement une charge romanesque que vous exploitez, que le programmeur n'a pas, juste pour comprendre cette relation. On l'a bien vu, votre relation à vous avec les codeurs, de fascination. Quelle a été l'autre, en miroir, la manière dont vous avez été accueilli par ces codeurs, ces codeuses, qui se disent, tiens, qui est cette néophyte qui vient s'intéresser à notre monde ?
J'ai été assez bien accueillie, avec beaucoup de surprises. La première d'entre elles, qui ouvre un peu mon apprentissage, qui s'appelle Chloé, est une jeune fille qui est très très civile, très polie et très dévouée, et qui donc ne manifeste aucune réprobation, aucun jugement à mon égard, alors que vraiment c'était un peu incongru. Mais elle fait ça avec beaucoup de soin et d'attention. Après, tous les autres codeurs dont je parle dans mon livre sont des mélanges de fiction et de réalité. Donc je ne les ai pas rencontrés en chair et en os, mais je les ai fabriqués avec ce que j'ai vu et ce que j'ai observé et ce que j'ai lu. Donc je peux pas parler exactement d'un accueil humain officiel, si ce n'est celui de Chloé, qui a été très bon.
Vous en avez rencontré justement en chair et en os des codeurs, des causeuses, notamment à l'école 42. Son objectif, Olivier Crouzet, de cette école à la base, c'est justement de rendre tout cela plus accessible, en permettant peut-être à des jeunes gens qui n'avaient pas les bons diplômes, qui n'ont pas fait les bonnes études, de pouvoir entrer dans cette école-là.
Oui, tout à fait. On voulait d'un côté avoir une forme d'impact social, parce qu'on savait que ce type de profil n'était pas forcément en phase avec les progressions classiques dans le système scolaire. Et on avait eu déjà plusieurs exemples de personnes qui étaient en décrochage, par exemple, et qui, en fait, pouvaient se révéler très bons dans la pratique du code, dans la pratique de la programmation, et derrière dans les métiers vers lesquels ça débouche. Et donc, on s'est dit, pourquoi finalement se baser, par exemple, sur l'obtention d'un bac, qui pour nous n'est pas révélateur du fait d'avoir ces qualités pour pouvoir embrasser ce type de carrière-là. Et donc ça a été une très grande ouverture au niveau de l'entrée à 42, et derrière toute une phase de sélection qui va pouvoir être abordable pour un néophyte complet.
Même s'il faut réussir quand même l'épreuve de la piscine, hein, je l'ai lu à la fois dans le roman de Nathalie. Cette épreuve, c'est quoi la piscine ?
La piscine, c'est 4 semaines finalement pour goûter est-ce qu'on aime le code ? Parce qu'il y a plein de gens qui peut-être ont une espèce de vision fantasmée de qu'est-ce que c'est que la programmation ou le code, et il y a besoin de les mettre concrètement dans le bain pour savoir si c'est quelque chose qu'ils vont vraiment aimer, sur lequel ils vont pouvoir s'engager sur des études de 3 à 5 ans. Et puis aussi, est-ce que les gens vont être à l'aise dans notre modèle pédagogique, le peer learning. 42 est assez connu pour l'aspect pas de cours, pas de prof, donc c'est une façon de travailler qui est complètement différente, et on n'a pas forcément tous les gens qui vont être à l'aise dans ce mode-là. Et donc ça, c'était la raison en entrée, et en sortie, il y avait principalement le besoin de professionnels sur le marché, qui là aussi a été un gros moteur pour la création de 40.
Mais sur la piscine, il n'y a pas quand même cette idée d'un peu de rite d'initiation, qu'il faut passer cette épreuve, elle est dure. Moi, ça m'a rappelé un peu le mythe de l'entrepreneur aussi, de la Silicon Valley, qui doit arriver avec ses compères, à prendre sur lui en sueur pour pouvoir quelque part passer ce rite, ce moment. Je dirais pas qu'il y a quelque chose de viriliste, mais en tout cas, il faut conquérir.
C'est quelque chose qui effectivement est ressenti comme ça par beaucoup d'étudiants une fois qu'ils sont passés par cette piscine. Pourtant, en regardant le détail, la façon dont elle est construite, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de marches intermédiaires, qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des baby steps, qu'on va vraiment très lentement.
Il y a un bain avant d'arriver au grand bain, c'est ça.
Voilà.
On peut y aller progressivement.
Et on a tout fait pour que ça soit vraiment crescendo, pour être dans une ambiance qui soit la plus propice à pouvoir finalement révéler les gens qui vont au final être à l'aise dans le modèle. Mais c'est vrai que ça reste a posteriori toujours vécu comme quelque chose de très initiatique, oui.
Oui, ouais, ça reste quand même un grand bain dont il faut arriver à sortir la tête de l'eau sans se noyer. Erwan Kezar, c'est la même démarche finalement avec nos codes. Encore une fois, c'est rendre tout cela accessible pour que on puisse un peu mieux comprendre aussi nos mondes numériques qui nous entourent. On l'a dit, hein, le code est partout. Il faut qu'on puisse arriver à remettre un peu la main justement sur ce monde digitalisé.
C'est ça, et j'ai envie de dire même très pragmatiquement, selon nous, chez Contournement, le principal intérêt du no-code, c'est surtout de permettre donc à des personnes non informaticiennes de se créer leur propre solution, de résoudre leurs propres problèmes en autonomie et en aucun cas de remplacer le code.
Il n'y a pas de concurrence, oui. Souvent, on a tendance à les opposer.
Plutôt une complémentarité et de toute façon, sans code, pas de no-code. C'est-à-dire que les outils no-code, ce sont des outils qui codent pour vous, en quelque sorte, pour que ce soit transparent et qui vous permettent, je ne sais pas, d'automatiser un processus que vous allez faire à la main, copier-coller d'un Excel à un mail ou autre et de vous créer tout ça vous-même. Et on voit de plus en plus de codeurs ou de codeuses qui se mettent à du no-code pour pouvoir aller plus vite sur certaines briques et pouvoir se concentrer là où le code a une énorme valeur ajoutée. Parce que aussi, on parle du web, c'est-à-dire les sites web, les applications mobiles, se créer une solution, je parlais tout à l'heure de ma TPE, de ma PME, de mon association, peu importe la structure. Mais tous ces besoins du quotidien où on a besoin de s'auto-outiller en autonomie, de créer soi-même ses solutions, c'est là où le no-code est utile. On ne fait pas tourner un moteur d'Airbus ou une infrastructure électrique nationale avec du no-code. Et c'est là où des élèves de 42... programme vraiment.
Même si, puisque vous parlez d'Airbus, je fais la transition avec un autre moyen de transport, qui est la SNCF, qui peut avoir recours à du no-code.
Absolument. Mais ne serait-ce que, par exemple, quand la SNCF donne accès à des données pour que d'autres applications viennent se brancher dessus, par exemple, pour créer une appli corrélée à SNCF. Ça, aujourd'hui, c'est possible de se connecter, grâce à la magie des API, qui peut avoir l'air d'être hyper technique. API, en gros.
Je pourrais demander à Nathalie qu'elle nous l'explique, mais je préfère que ce soit à vous.
C'est ça. Mais c'est ce qui permet aux applis de communiquer entre elles. En fait, tout sur le web aujourd'hui est interconnectable et c'est là où le no-code donne de sa puissance, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs outils et je vais pouvoir créer une unicité entre ces outils pour travailler de manière plus productive, que ce soit dans mon asso, dans mon entreprise ou dans ma vie de demandeur d'emploi, que si je cherche un boulot. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est de pouvoir tout interconnecter.
Tout interconnecté, et cette connexion elle a été faite justement à l'école 42 par votre narratrice qui découvre les murs avec une figure de direction que vous devez connaître, hein, qui est Sophie Vigée, qui est la directrice justement de l'école 42 Viguier et qui va donc faire un tour de cette école-là. Et on va voir, vous allez nous le dire après, si ça correspond, Olivier Crouzet, à la réalité.
On croise aussi des duvets abandonnés par terre, des serviettes de toilette qui sèchent sur les rambardes de l'escalier et bien sûr des dizaines et des dizaines de garçons. Dans cette immense chambrée, j'éprouve une pointe de malaise et d'excitation. Soudain, je vois des corps endormis, je sens des odeurs de peau, de cheveux, des effluves de savon et de transpiration. Sophie me confie qu'adolescente, elle était misogyne, toujours fourrée avec les mecs. Elle a bien changé aujourd'hui. Elle pousse les filles à coder. Il y en a désormais 30% dans l'école, ce qui ne se voit pas à l'œil nu.
Page 27 donc de votre roman, Nathalie Azoulay, merci pour cette lecture de Python. On arrive justement à ce cliché qui n'en est peut-être pas un, c'est que le codeur aujourd'hui est encore un homme.
Le codeur est encore en majorité un homme, effectivement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits médiatiquement par beaucoup d'associations. En 42, on cherche également à faire tout un tas d'événements et tout un tas de sensibilisations pour pouvoir attirer davantage de public féminin. C'est le cas pas uniquement dans les écoles de code, c'est le cas plus largement dans la plupart des formations techniques et scientifiques, malheureusement.
C'est vrai, mais on a l'impression que quand même dans le métier des codeurs et des codeuses, c'est encore plus profond. C'est-à-dire que on sent cette image rétinienne de l'homme codeur et cette réalité aussi encore plus prégnante que dans d'autres filières du numérique qui ont tendance peut-être un peu plus à se féminiser.
On commence à avoir près de 30% de femmes, donc je commence à un petit peu moins le ressentir, très clairement. Mais oui, c'est on est parti de beaucoup plus loin, probablement. Les toutes premières années à 42, on était plutôt à 10% de femmes, là où les écoles d'ingénieurs étaient entre 15 et 20%. Et donc, effectivement, au prix d'un certain nombre d'efforts, on peut attirer davantage de femmes dans le numérique et dans les écoles de code, cursus pour lequel, finalement, les femmes s'en sortent très bien et il n'y a pas plus de problématiques de progression et de réussite une fois que les femmes ont décidé d'aller vers ce type de carrière.
Alors vous dites 30%, Nathalie Azoulay nous dit par sa narratrice que ça ne se voit pas à l'œil nu. Nathalie Azoulay, ça vous a intéressé aussi l'aspect genré du secteur ?
En fait, quand je me suis promenée dans les plateaux de 42, je jouais un peu à Charlie, vous savez, je cherchais la femme, la fille. Alors je la trouvais, mais pas immédiatement, parce parce que soit elles sont, bon, de toute façon elles sont peu, mais même quand elles sont là, elles sont un peu fondues parce qu'elles épousent les codes et vestimentaires et physiques de l'assemblée majoritaire, c'est-à-dire des garçons.
Elles épousent la silhouette masculine.
Oui, c'est-à-dire forcément il y a un code parce que comme dans tous les milieux professionnels, il y a des attitudes, il y a une façon d'être, etc. qui est un peu mimétique. Donc on ne les voit pas tout de suite. Mais il n'empêche que c'est la grande question des sciences et en particulier de la technologie, c'est vrai, que pourquoi est-ce que ces filles qui, au départ de l'informatique, étaient quand même assez présentes, je crois, et qui n'avaient pas forcément les meilleures tâches, mais qui en tout cas étaient là, pourquoi est-ce qu'elles ont disparu? Mon texte essaye aussi de raconter cette histoire de la disparition, qui n'est pas une disparition, je dirais, volontaire, c'est-à-dire que on les a pas mises dehors. Mais de fait, quand l'industrie et l'industriel a pris les manettes de tout ça, les enjeux sont devenus tellement grands, tellement forts, tellement puissants, que forcément l'ambition masculine, dans ces cas-là, elle s'y retrouve mieux et elle fait mieux son entrée dans le jeu. Mais il reste quand même quelques énigmes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encouragement, c'est vrai que quand on est une fille, c'est difficile d'aller vers un monde où on est peu représenté, c'est toujours un gros effort, et de la crainte et tout ce qu'on peut imaginer. Mais je sais pas, je pense qu'il y a d'autres facteurs d'explication que je n'ai pas encore trouvés. Ça fait deux romans que je cherche, en fait,
oui,
sur cette façon d'être fille et scientifique. Et,
que ce soit dans les mathématiques ou effectivement dans le code.
Oui, alors je pense que les filles ont peur, je pense qu'elles ont peur d'elles-mêmes, je pense qu'elles s'auto-censurent, je pense qu'elles ont, dans le spectre de l'ambition, elles ont plus de propositions que les garçons. Je sais que je vais me faire très mal voir par le reste de mes congénères, mais c'est vrai que quand on est une femme, on peut être ambitieux professionnellement, mais on peut être ambitieux sur d'autres terrains. Quand on est un homme, c'est encore difficile. Et donc, je pense que les filles n'y vont pas aussi facilement, aussi évidemment. Mais elles y vont de plus en plus, on les encourage, et c'est tant mieux. Et je pense qu'à terme, les choses pourront peut-être changer, mais il va falloir du temps. C'est difficile de bouger des décennies d'une donne qui a été quand même très exclusive.
Et c'est intéressant justement dans votre roman parce qu'il y a beaucoup de figures féminines, déjà la narratrice, ensuite les codeuses que vous rencontrez, Margot, Chloé, qui sont des personnages, et puis les figures tutélaires que vous invoquez, Grace Hopper notamment, et c'est toujours intéressant de rappeler que les femmes étaient là dès le début, même dès le début à côté de la programmation, et vous le dites très bien, à partir du moment où le secteur est devenu plus intéressant, où il y a eu des enjeux de puissance, des enjeux économiques, les hommes sont arrivés et puis ils ont essayé de s'accaparer. On l'a un peu raconté la semaine dernière dans Le Meilleur des Mondes, on a retracé l'histoire d'Alice Rockock qui est assez similaire. Erwan Kézar, le no-code justement, est-ce que c'est une solution aussi à portée de main pour permettre peut-être à plus de femmes de se lancer dans cet univers en se disant que ça sera plus simple? Alors j'ai bien compris évidemment que les femmes sont tout à fait capables de sortir de la piscine, mais néanmoins ça peut peut-être rendre tout cela plus accessible.
C'est en fonction de ce qu'on fera du mouvement no-code, je dis bien mouvement parce qu'au-delà d'être un nouveau type de technologie, les outils no-code, il y a tout un mouvement qui est autour. Par exemple, en France, on a la chance d'avoir la communauté la plus dynamique au monde sur le sujet, No-Code France. Et dans ce cadre-là, par définition, étant donné qu'il y a vraiment tout type de profil, il y a des gens qui viennent du code, il y a des gens qui sont du monde de l'entreprise, d'autres qui sont du monde de l'enseignement, qui s'entraident, d'autres qui font juste ça à titre amateur. J'ai envie de dire que en termes de diversité, on retrouve une diversité à la fois de métiers, à la fois de niveau de connaissances informatiques, mais aussi une diversité de genre. Donc sur ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques posées, mais le mouvement de code est un peu à l'image de la société, dans le sens où il y a un peu tout le monde. En revanche, dans les métiers techniques, par rapport à tout ce que vous évoquiez juste avant, je pense qu'il y a encore des stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Il y a encore des rôles modèles aussi, des personnes qui ouvrent la voie à mettre en avant. Et par exemple, il y a 2 ans, avec l'association Décodeuse, qui forme au code, on avait fait un sas de 3 semaines pour des demandeuses d'emploi en non-mixité entre femmes, pour qu'elles apprennent le code plus facilement derrière. Encore une fois, nos codes et codes sont extrêmement compatibles. Et c'était hyper intéressant, parce que en termes d'autocensure pendant la formation, mais ça c'est la méthode décodeuse, la non-mixité, ça permet aussi de faire tomber certaines barrières. Et le fait de faire du no-code, de comprendre certains concepts visuellement, ça permettait derrière, une fois qu'on abordait le code, d'avoir déjà compris certains concepts de base de données, d'architecture, d'automatisation, etc.
Alors, on voit justement ce manque de femmes. C'est très intéressant, effectivement, que vous évoquiez les vertus de la non-mixité. Mais de toute façon, il y a un problème globalement de pénurie de main-d'œuvre. C'est qu'il n'y a pas assez de femmes, c'est une évidence, mais il n'y a pas assez d'individus tout court. Olivier, comment on peut expliquer justement? Alors, on parle de monde connecté en permanence. On est bien placé ici pour le savoir. On voit qu'il y a des besoins. On comprend que ça peut tout de même être accessible. Et pour autant, on manque de codeurs. Je crois qu'il y a un peu plus de 20 millions peut-être de codeurs dans le monde. Il en faudrait sans doute plus du double pour accompagner toute cette transition numérique. Comment on explique ce manque de main-d'œuvre ?
Eh bien, on explique ça parce que, en fait, l'informatique, c'est pas juste un secteur d'activité tout seul dans son coin. C'est en fait un secteur d'activité qui est complètement transversal et qui va impacter tous les autres secteurs d'activité. Donc, on a besoin en fait de codeurs pas que pour faire des sites web et des applications mobiles, mais on a besoin de codeurs pour le domaine médical, on a besoin de codeurs pour le domaine social, on a besoin de codeurs dans l'industrie lourde, dans vraiment tout. Effectivement, tous les objets connectés qu'on peut avoir à la maison également. Donc, il y a vraiment une très très grosse pénurie. En 2013, à la création de 42, on avait regardé, il y avait une projection de la Commission européenne qui disait en 2020, on va manquer près d'un million de développeurs si on ne fait rien. On est un petit peu plus loin que 2020, effectivement. Aujourd'hui, la même Commission européenne nous indique qu'il nous manque un demi-million de professionnels du numérique. Donc, il y a eu un certain nombre d'efforts de fait, il y a eu un certain nombre d'initiatives de fait. En France, par exemple, on a eu la Grande École du numérique qui a boosté, qui a permis la création d'énormément de formations. Également, mais il y a toujours ce manque qui reste énorme, parce qu'il y a encore beaucoup de secteurs, le bâtiment par exemple, qui...
Oui, et pourtant le métier est attractif, donc on se dit c'est étonnant, Erwan Kezar.
C'est ça en fait, la pénurie de développeurs dont on parle plus longtemps, je pense qu'elle se transformait. À la base, j'avais monté une école de code, où on était parti de ce constat, mais aujourd'hui, je pense que c'est surtout une pénurie de développeurs qualifiés, notamment comme ceux que vous formez, c'est-à-dire qui savent vraiment programmer et tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de développeurs juniors sur le marché du travail, notamment sur le web, qui parfois vont galérer à trouver du boulot parce que, par définition, ils vont pas forcément savoir faire grand-chose ou qu'ils ont été formés un peu à la va-vite. Et du coup, le besoin du numérique, il se situe à plusieurs endroits. Comme on le disait tout à l'heure, de la vraie programmation complexe, avancée, qui fait tourner des moteurs d'Airbus, là, il y a un vrai besoin. Sur le côté du web, j'ai envie de dire... Pourquoi à chaque fois on met en avant le fait de ne pas opposer code et no code ? Il y a tout un tas de besoins qui se situent dans des entreprises, dans des assos ou autres, où en soi, on n'aurait pas à mobiliser des codeurs. On n'a pas besoin de mobiliser des codeurs pour faire des petites tâches par-ci par-là. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait des journées entières de temps perdu. Et c'est là où des outils plus accessibles, plus démocratiques peuvent, quand des non-informaticiens les adoptent, pallier une partie de la pénurie. Par contre, sur le besoin de former plus de codeurs et de codeuses, ça, c'est clair. Par contre, c'est de bien les former. Et quand une école comme 42 est très sélective à l'entrée, je pense que c'est l'un des moyens, justement, d'assurer, parce qu'il y a eu un moment aussi où il y a eu un effet de mode autour de la formation au code.
Oui, il y a toujours des bulles, et puis un effet de mode, et
exactement.
Ensuite, on revient à une certaine réalité. Mais le fait est que ces codeurs, ces codeuses sont peu nombreux. Voilà, ils sont une infime minorité, et pour autant, à maîtriser un langage qui est partout, ce qui leur donne peut-être un sentiment de dominer le monde. Là, je vais lire Nathalie Azoulay. En même temps, ce sont des personnes qui rasent les murs, c'est assez étonnant. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment cette activité de programmation est passée d'une activité solitaire dans une chambre de garçon à un moyen de dominer le monde. Vous l'avez ressenti, ça, Nathalie Azoulay, justement, cette position de ces rares élus à connaître, justement, les clés, les codes de notre monde.
Alors, je l'ai constaté, oui et non. C'est-à-dire, je crois que c'est une réalité que tout le monde constate et c'est objectif. Je pense que le fait qu'ils soient peu nombreux fait partie de ce mystère. C'est-à-dire, c'est un peu les scribes du Moyen-Âge qui seraient de retour et qui maîtriseraient le langage et l'écriture alors que la majorité des gens ne le feraient pas. Et puis, en fait, moi, j'ai un jour visionné les auditions de Zuckerberg en 2018 au Congrès américain. Et donc, il y a un des parlementaires qui lui dit « Mais dites-nous ce que fait votre entreprise ». Et là, il a cette réponse magistrale, il dit « Mon entreprise recrute des gens qui écrivent du code ». Voilà. Et il dit ça devant ce parlement, enfin ce congrès, qui ne sait pas ce que c'est que le code, je pense, qui est constitué à majorité de gens de plus de 50 ans. Et comme il est là pour rendre des comptes, il a ce rempart de code derrière lequel il se met, mais je pense qu'il est très sincère quand il dit ça, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est ça, Zuckerberg et Facebook. Mais évidemment, depuis, ça a été autre chose. Mais c'est comme s'il y avait la condition sine qua non pour comprendre un tout petit peu ce monde de la technologie, et que personne n'avait cette condition, ou très très peu de gens. Et en fait, c'est aussi moi ça qui m'a attirée, c'est-à-dire de me rendre compte que ces couches de langage sur lesquelles on marche et sur lesquelles on vit, en fait, aujourd'hui, eh bien, il y a très peu de monde pour les décoder. Et je me demande pourquoi on n'enseigne pas le code dès l'école primaire et pourquoi, en effet, les filles restent à la traîne. Enfin, si on a une telle pénurie, alors certes, il y aura l'IA qui va nous sauver, mais s'il y a une telle pénurie, il vaudrait mieux quand même y aller en renfort de formation massive. Et je crois que le code est encore très très peu enseigné aux enfants en France.
Ça, c'est une certitude et c'est sans doute, ça fait sans doute partie de vos souhaits communs de voir ce code arriver, pourquoi pas dès le plus jeune âge.
Dans on y participe.
Et vous y participez évidemment activement. C'est intéressant ce sentiment d'incompréhension que vous évoquez entre Mark Zuckerberg et les autres personnes en face. C'est-à-dire que pour eux, Facebook, c'est pas du code, c'est une révolution matricielle qui a gouverné le monde. Et lui, il nous dit, avant tout, c'est des lignes de code. Donc on voit bien, effectivement, à la fois cette ambivalence entre des lignes qui, pour certains, changent la destinée mondiale et pour d'autres, ce ne sont que des lignes, d'où l'important de savoir les maîtriser et les décoder. On va continuer à parler de ce sujet passionnant. Et puis, vous avez fait un peu de teasing, Nathalie Azoulay, en nous disant que l'intelligence artificielle va nous sauver. La question est donc posée. Réponse après Maëlle. Et toutes les machines ont un cœur dans le meilleur des mondes.
France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel.
Les machines ont un cœur par Maëlle. Elle aussi, elle a un cœur et ce n'est pas une machine, mais Juliette Devaux. Bonsoir Juliette.
Bonsoir François.
Bienvenue avec nous dans ce studio. Place maintenant à votre journal.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Devaux.
Et on ouvre ce journal avec des nouvelles de l'Union européenne où on apprenait ce lundi 11 mars que les ministres du Travail de l'Union européenne étaient enfin parvenus à trouver un accord pour la protection des travailleurs des plateformes. Un projet de réglementation qui, pour rappel, avait été lancé en décembre dernier et qui prévoyait de requalifier en salariés les quelques 5,5 millions de travailleurs des plateformes, leur permettant d'avoir accès à un salaire et à une protection sociale minimale. Un projet auquel s'opposaient fermement la France et l'Allemagne qui étaient parvenus en février à constituer un front de plusieurs États pour bloquer son adoption. Un blocage levé ce lundi donc, mais qui semble tout de même avoir porté ses fruits sur le contenu du texte. Aucune harmonisation à l'échelle européenne n'est prévue. Chaque État membre sera libre d'établir les critères pour requalifier les travailleurs en salariés. Une marge de manœuvre qui devrait permettre aux États pro-tech de servir encore l'intérêt des plus grands au détriment des citoyens européens.
Sujet passionnant dont on parlera la semaine prochaine dans Le Meilleur des Mondes. Et on poursuit votre journal avec des nouvelles du côté de la médecine.
Oui, c'est une technologie au nom étrange, les organes sur puce qui se développent depuis une dizaine d'années dans les laboratoires de recherche médicale. Derrière ce nom mystérieux se cachent des cellules élevées en laboratoire dans des environnements reproduisant certaines conditions de nos organismes comme la pression ou le flux sanguin et qui, une fois assemblées en série, permettent de créer des jumeaux numériques de nos organes humains. Une technologie qui permettrait de proposer une alternative aux tests sur les animaux dont le taux d'échec est très élevé. 9 médicaments sur 10 qui ont passé les tests sur animaux sont abandonnés lors des évaluations cliniques. La communauté des chercheurs espère obtenir l'autorisation des autorités réglementaires d'ici quelques années pour permettre de continuer à avancer dans le domaine médical sans porter préjudice à nos amis les bêtes.
Et on sait que vous les aimez. On conclut ce journal avec un format vidéo réhabilité ces derniers mois.
Oui, c'est le journal Le Monde qui attire notre attention sur ce format historique du web, les Get Ready With Me ou Prépare-toi avec moi en français, qui renvoie à un format vidéo très répandu sur YouTube et TikTok, dans lesquels on voit des jeunes femmes se maquiller devant leur caméra tout en livrant leurs réflexions dans un flot continu de paroles. Si le format de ces contenus peut paraître artificiel, l'article du Monde attire notre attention sur le fait que ces vidéos permettent également aux jeunes femmes de s'exprimer sur des sujets parfois difficiles. C'est le cas d'une lycéenne de 19 ans du nom de Lee, suivie par 200 000 abonnés, qui s'est confiée dans l'une de ses vidéos sur une agression sexuelle dont elle a été victime et qui a reçu par la suite des milliers de messages de jeunes filles témoignant de faits similaires. Un appel à dépasser nos idées préconçues sur l'artificialité des réseaux sociaux qui recèlent de lieux inattendus, finalement propices à la libération de la parole.
Un journal et les nouvelles d'un monde meilleur à retrouver bien sûr sur l'application Radio France. La parole continue à se libérer ce soir autour du code et de ses mystères. Nous sommes en compagnie d'Olivier Crouzet, directeur de l'innovation pédagogique à l'école 42, avec Arwen Kézard, cofondateur de Contournement, un organisme de formation spécialisé dans le no-code, et avec la romancière et traductrice Nathalie Azoulay, autrice donc de Python qui est sortie début janvier aux éditions POL. Et Nathalie Azoulay, on va avoir le droit à un second extrait, une seconde lecture avec cette question tout de même, l'écrivaine que vous êtes, la traductrice que vous êtes également, puisque vous traduisez certaines œuvres de Virginia Woolf ou vous décodez finalement une langue étrangère. Comment la femme de lettres a-t-elle abordé ce langage informatique ?
Bah avec ses petits moyens, c'est-à-dire avec ce qu'elle ne savait pas, surtout avec beaucoup d'humilité, beaucoup de disponibilité et assez vite avec une très petite ambition, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je n'allais pas aller très loin dans le code, mais je voulais juste faire quelques pas à l'intérieur de cet univers pour comprendre quelques rudiments de logique, pour comprendre le si alors sinon, pour comprendre les éléments de syntaxe de base de Python, hein, je ne suis pas allée voir d'autres langages, et pour comprendre ce que c'est que des lignes en fait, comment ça s'organise, en effet il y a tous ces arbres de décision qui sont prévus par le programme et qui en fait découpe notre action humaine en toutes petites séquences qu'on n'imagine même pas en fait. Et c'est devenu pour moi comme un apprentissage de la grammaire en fait. C'est-à-dire que on découpe. Je me suis même mise à jouer avec des jeux pour enfants qui initiaient à Python, etc. pour comprendre ce que c'est qu'une séquence d'action et pour comprendre comment on décompose et comment on subdivise sans arrêt. Donc voilà, avec juste ces rudiments, j'avais quelques petites torches pour entrer dans ce monde. Encore une fois, mon ambition a tout de suite été revue à la baisse et j'ai repris très vite ma casquette de romancière.
Voilà, et une romancière qui a justement commenté ce langage informatique. Si vous êtes prête, on peut aborder notre deuxième extrait de Python. Nous sommes page 20 au tout début.
Le code, ce sont des signes sous les signes, du langage avant, sous le langage, proto, infra, méta, comme on voudra. Une écriture qui précède l'écriture. Sous les claviers qui cliquettent, les doigts virtuoses, jaillissent une algèbre véloce, une grammaire multicolore, de vieilles polices de machines à écrire comme d'avant l'ordinateur, des signes de ponctuation, des caractères spéciaux, une langue vivante qui pourtant ne se parle pas. Une écriture qui succède à toutes les écritures, au sens où elle les utilise toutes, les mélange, les combine, lettres, chiffres, tout. Les écrivains écrivent, les codeurs écrivent. Selon les jours, je les vois jouer un morceau à quatre mains, harmonieux, paisible, ou disputer un match enragé. Je vois le codeur, plus inspiré que l'écrivain ne le sera jamais, obsessionnel, rivé à son ouvrage, promis à une nid de feu perpétuel qui produira des actions utiles au reste de l'humanité. Je vois l'écrivain accepter que son texte se fasse encoder, sertir dans des chaînes de caractères, puis traduire, diviser, subdiviser, que ce qu'il soigne et compose devienne, sous les doigts du codeur, une sorte de logorée, de coulée numérique, sans odeur, ni saveur, ni beauté particulière.
Olivier Crouzet, il faut lire du Nathalie Azoulay à Col 42, il faudrait faire des lectures comme ça, en haut-parleur, pour immerger justement celles et ceux qui tentent de sortir de la piscine.
Alors, j'ai envie de répondre spontanément non, puisque notre principe pédagogique est de laisser les étudiants aller chercher par eux-mêmes l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour pouvoir avancer et pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on leur pose. Ça fait partie un petit peu de nos principes au-delà de l'apprentissage du code. À 42, on cherche aussi à les rendre adaptables pendant 40 années de carrière professionnelle derrière. Et Dieu sait que l'informatique et la technologie va évoluer tant et plus pendant toutes ces années. Donc, il faut pouvoir en permanence s'adapter, se réadapter sans cesse aux nouvelles technologies, aux nouveaux langages de programmation qui vont apparaître. Le Python est très en vogue en ce moment. Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ce sera toujours le cas ou est-ce qu'il sera détrôné par un autre langage? Donc il y a vraiment au-delà de ces éléments de logique, de ces briques élémentaires qui sont en nombre assez petit mais qu'on peut combiner presque à l'infini, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'adapter sans cesse et résoudre tous les nouveaux problèmes qui vont arriver et avoir des gens qui ne vont pas être finalement en situation, comme l'évoquait un petit peu peut-être Erwan tout à l'heure, en situation de devoir à un moment être bloqué parce qu'il y a trop d'évolution, parce que la technologie a encore changé, qu'il faut se réadapter, qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau au fur et à mesure que ça progresse sans arrêt.
S'adapter justement aux événements, même les événements les plus extraordinaires comme une pandémie, cette pandémie, ça a été un accélérateur pour le no-code?
Absolument, déjà historiquement, dans le livre, on essaie de faire une histoire, une chronologie de à partir de quand le no-code a commencé vraiment à émerger en tant que phénomène, que technologie, que mouvement et que mot aussi. Et ces technologies, on estime qu'elles ont vraiment été matures, vraiment eu des preuves d'utilisation autour de 2018-2019. Et en 2020, en effet, il y a eu la pandémie, ce qui fait que beaucoup de gens aussi étaient sur l'ordinateur, s'intéressaient à nouvelles compétences, et c'est un peu le moment où il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup d'informations autour du no-code et quelques projets aussi. Par exemple, chez Contournement, on avait aidé une association qui s'appelle Banlieue Santé, qui diffusait des informations par vidéo pour des personnes allophones sur les bonnes pratiques, sur tout ce qui se passait, et qui livrait des paniers repas à des profils en difficulté ou fragiles dans les quartiers populaires ou dans les camps de migrants. Et pour le coup, ils n'avaient pas d'application pour faire circuler ça. Et du coup, vous avez demandé autour d'eux, ça aurait pris du temps, c'était des gros budgets, c'est normal. Parce qu'en code, faire une application mobile, c'est complexe et long. Et là, pour le coup, avec le no-code, au bout d'une demi-journée, on avait fait une première version de l'application qui a pu circuler entre beaucoup de mains. Et surtout, les gens de l'association ont pu eux-mêmes continuer à la faire évoluer, alors qu'ils n'étaient pas informaticiens. Et organiser aussi tous les processus entre les livraisons, les bénévoles, les candidatures, et automatiser une grosse partie de ça. Et là, je suis pas en train de dire que, heureusement qu'il y a le code et que le code n'aurait jamais rien pu faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu amorcer ça, résoudre leurs problèmes, et à partir du moment où on a atteint les limites du no-code, c'est là où on a besoin d'encore plus de code. Plus de no-code égale besoin de plus de codeurs derrière, selon nous.
On a bien compris que vous ne cherchez pas à les mettre en concurrence, mais que vous accompagnez justement cette évolution, de l'évolution à la révolution de l'intelligence artificielle. Pour certains, ça pourrait rendre la pratique du code complètement archaïque. C'est du moins l'avis du patron de Nvidia, qui est un des géants de l'édition de logiciels. On l'écoute.
Over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody would tell you.
Ces 10-15 dernières années, la quasi-totalité des gens disait, il est crucial que vos enfants se forment à l'informatique. Tout le monde devrait apprendre à programmer. En réalité, c'est devenu le contraire. C'est notre travail de créer des technologies informatiques qui font en sorte que personne n'ait besoin de programmer et rendent le langage de programmation compréhensible par l'homme. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde est programmeur. C'est le miracle de l'intelligence artificielle. Les pays, les gens qui ont besoin de résoudre un problème dans des domaines comme la biologie numérique, l'éducation, l'industrie ou encore l'agriculture peuvent à présent utiliser les technologies mises à leur disposition. Vous possédez désormais des ordinateurs qui feront ce que vous leur demanderez de faire. Améliorer les compétences de chacun est devenu essentiel, et ce processus d'amélioration sera incroyable et surprenant.
On a vu d'ailleurs beaucoup de personnes utiliser notamment ChatGPT pour essayer de générer finalement des morceaux de code. C'est vrai qu'on se dit que ça peut être un outil assez extraordinaire, qui pourrait même contourner le contournement, puisqu'on n'aurait plus qu'à rentrer dans un prompt pour pouvoir générer du code. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution, Erwan Kezar?
Ce que j'en pense, c'est que ça participe du mouvement de démocratisation des technologies, de commoditisation des technologies. C'est-à-dire que ce qui était très complexe à produire ou un bien rare, ben, ça devient plus accessible, encore une fois, pour un peu tout le monde, dans une certaine mesure. Là, les intelligences artificielles génératives, c'est intéressant parce qu'on demande de produire quelque chose et elle le fait. Donc, qu'est-ce qu'on programme au final? Là, on est plutôt en train, avec du langage naturel, du langage oral, de lui demander quelque chose et elle nous produit une réponse. Est-ce qu'on la programme? Je sais pas. En revanche, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est toujours cette logique de se dire, pendant un moment, on utilise tellement le numérique. À partir du moment où on utilise un téléphone ou un ordinateur, on passe beaucoup de temps entre les outils à jongler. Là, enfin, on recommence à avoir le pouvoir sur cette machine, à se faire obéir de cette machine, à pouvoir lui faire faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Et que ce soit avec du code ou sans code ou avec de l'intelligence artificielle générative, je pense qu'on est dans une période qui a ce titre-là hyper intéressante, dans le sens où on se réapproprie les moyens de production logiciels et numériques.
Vous avez cette impression, parce qu'on entend aussi un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que on se réapproprie, en même temps on fait beaucoup de délégation par rapport à une machine, donc on comprend pas forcément comment elle fonctionne. Autant le code, il y a ce désir ambitieux, la preuve, quand on est néophyte, on y va en toute humilité d'essayer de comprendre les arcanes de la machine. Là, on comprend rien finalement, c'est pas du tout en open source, ça nous livre une réponse qui se doit d'être divine, la bonne, la seule.
Les IA sont des boîtes noires, clairement, ça c'est un vrai problème, parce qu'il y a un enjeu au-delà de la technologie, un enjeu politique, un enjeu de compréhension de tout ça, mais là où pour le coup je trouve que la programmation visuelle permet aux citoyens, aux jeunes, d'entrer dans une forme de compréhension de tous ces enjeux numériques, dans des humanités numériques, jusqu'à de l'éducation populaire même, c'est que quand tu commences à manipuler des briques du web, des bases de données, tu comprends mieux la notion de données, des automatisations, tu comprends que c'est pas de la magie ce qui se passe derrière, et tu comprends mieux ce à quoi le code sert. Et selon nous, des outils plus accessibles comme ceux-ci permettent, j'aime bien, je dis toujours cette expression du commun des mortels, au moins de commencer à avoir une préhension, une prise sur ces choses-là pour mieux les comprendre derrière, notamment par la pratique dans un premier temps.
Intéressant. Olivier Crouzet, comment justement vous les préparez, ces étudiants, à cette IA? Les spécialistes du secteur ne la découvrent pas depuis un an ou deux, évidemment. On sait très bien qu'elle a une grande et longue histoire. Mais comment faites-vous pour les préparer au mieux à cette accélération, du moins?
Alors, on prépare nos étudiants, évidemment, à eux-mêmes savoir coder des IA. C'est-à-dire pas être simple utilisateur, mais très naturellement, des outils comme ChatGPT, GitHub Copilot, il y en a beaucoup, notamment pour assister à produire du code. Les étudiants, ils nous ont pas attendus pour s'emparer effectivement de ce genre de technologie. C'est quelque chose qui fera forcément partie de leur métier, de leur avenir professionnel. Et donc, il y a besoin qu'ils sachent manipuler ce genre de choses. On a en préparation un certain nombre de projets qui vont demander trop de travail par rapport au nombre de points que ça va leur rapporter, et donc ils vont être obligés de utiliser tout un tas d'aides pour pouvoir faire ce projet plus rapidement. Donc ça fait partie des choses qu'on aborde. Et sinon, plus largement, j'aime beaucoup l'idée de démocratisation exprimée par Erwan, et ça rejoint le côté un petit peu qu'on avait tout à l'heure, aussi sur le côté un petit peu caste du le monde d'informaticien un petit peu hermétique. Je pense qu'on va de la même façon qu'aujourd'hui, si je fais une comparaison avec les jardiniers. On a des jardiniers professionnels et puis après on a toute une gamme de jardiniers amateurs plus ou moins éclairés qui vont aller eux-mêmes s'occuper de leur jardin. On va aussi avoir de plus en plus un public plus général qui va s'approprier petit à petit jusqu'à un certain niveau, un certain nombre de briques. On avait d'un côté peut-être juste des gens qui étaient simplement capables d'utiliser des logiciels. Maintenant on va commencer à avoir des gens qui sont peut-être néophytes un peu plus éclairés, qui vont utiliser du no-code, qui vont être capables d'assembler les choses, qui vont comprendre une logique à mettre en place, des gens qui vont peut-être, à partir de là, aller voir un petit peu plus sur des langages de programmation un peu plus avancés et qui vont leur permettre de faire du code ou des morceaux de code un petit peu plus spécifiques.
Donc plus d'ouverture, quoi, finalement.
Voilà.
Si je vous comprends, il y a davantage d'ouverture.
Il y en a besoin partout, donc autant que finalement tout le monde soit en mesure, à son niveau, de pouvoir mettre en œuvre justement ce dont il a besoin et ne plus subir la machine, comme tu l'expliquais, Erwan, tout à l'heure.
Parenthèse avant de donner la parole à Nathalie Lezé, plus subir la machine, j'ai cru comprendre quand même, Erwan Kaysar, que lorsqu'on fait appel à des applications de no-code, ce sont des applications essentiellement américaines, on subit d'une certaine manière le fonctionnement de ces applications qui ne sont pas toutes open source, loin de là.
C'est de moins en moins vrai. C'est vrai que les premiers outils qui ont été vraiment accessibles et puissants, ça a été des outils américains. Airtable pour les bases de données, Zapier pour automatiser, Make. Aujourd'hui, ce sont des outils très utilisés au niveau mondial. Mais en France, on peut être fier d'être une no-code nation en devenir, pour paraphraser une certaine expression. C'est bête, mais en France, quand je disais que no-code France, c'est la communauté la plus active au monde, on peut en être fier. On a beaucoup œuvré pour ça chez Contournement.
Même si c'est né aux États-Unis, évidemment, le mouvement no-code.
C'est né aux États-Unis, mais ce sont des technologies, par exemple, il y a des outils français, Xar et TimeTonic, par exemple, qui n'ont rien à envier aux Américains, qui sont conformes aux législations européennes, qui sont super et qui, en plus, ont souvent, sont mieux-disant, éthiquement parlant, qui sont utilisés par la puissance publique. L'URSSAF, la Poste, utilise du no-code aujourd'hui. L'agglomération de Pau, Béarn-Pyrénées, par exemple. Enfin, c'est hyper intéressant de voir que en France, on est hyper en avance, on a des super acteurs. Même ce matin, j'étais encore avec Centrinfo, qui est une institution parapublique de la formation professionnelle, donc parfois un peu éloignée des sujets. Et pour le coup, ils ont un programme d'innovation, le Corner, dans lequel ils se disent le milieu de l'emploi, le milieu de la formation, il faut qu'ils comprennent que ces nouvelles compétences, et je précise ça, il y a des experts du no-code, des professionnels du no-code, mais il y a aussi des gens qui sont chargés de communication, qui sont chefs de projet, qui ont un autre métier et qui s'adjoignent cette compétence sur le CV comme s'ils étaient bilingues. Et ça, c'est une compétence qui, selon nous, s'appellera même plus no-code dans quelques années, qui deviendra comme maîtriser Word, Excel, PowerPoint.
Ouais, d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de changer le nom, parce que dans le no-code, on est dans la négation de quelque chose.
Absolument.
C'est pas très vendeur. Et lorsqu'on dit que les Français sont les champions du no-code, ils sont aussi les champions du no-GAFAM, ils sont aussi les champions du no-cloud, ils sont les champions de la des no-réseaux sociaux. Donc, il y aurait sans doute quelque chose de plus vendeur à faire. Nathalie Azoulay, vous avez tenté aussi ChatGPT, puisqu'on parle d'intelligence artificielle générative, pour essayer de voir ce que ça pourrait donner en création artistique, en création littéraire. C'est bien normal, puisque on a bien vu que vous étiez intéressé par cette autre langue. Donc, vous avez essayé de voir ce que cette machine pouvait faire à votre langage à vous, celui de la littérature.
Oui, mais alors pour l'instant, c'est vrai qu'elle est pas très performante, elle est plutôt plate, elle pense comme un Américain bien pensant, elle récite un peu des sermons, etc. Donc forcément, elle sort pas beaucoup du cliché et de ce qu'on attend. Donc pour l'instant, elle est pas performante, mais dans mon livre, il y a un des personnages qui dit que on ne perd rien pour attendre et qu'elle va s'améliorer. Moi, je suis sûre qu'elle va s'améliorer. On n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait déjà faire ça. Donc, elle va lire toute la littérature. Elle va la mémoriser. Elle pourra écrire et comme Tolstoï et comme Proust et comme Shakespeare. Mais est-ce que c'est ça la littérature? Imiter les grands maîtres? Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est une bonne école pour le pastiche. Mais la création, c'est encore autre chose. Et ça, je ne sais pas si elle arrivera à le faire.
Oui, mais ça va être compliqué pour nous aussi d'inviter des auteurs et des autrices, puisque là, on a la chance de vous avoir en face de nous. On a une enveloppe charnelle qui peut raconter son œuvre. Qui
vous
on va inviter?
Plus là vous-même.
Ah, mais voilà, c'est ça. Donc, ce sera deux machines qui se parleront entre elles. Olivier?
Et même pour le code aussi, aujourd'hui, c'est... si on caricature un petit peu de ChatGPT, c'est simplement un moteur statistique qui va dire c'est quoi le caractère suivant ou le mot suivant qui va être écrit. Il va peut-être nous dire bah là il vaut mieux mettre un point virgule ou là il vaut mieux mettre des parenthèses. Mais c'est en se basant sur toute une tonne de code qu'il a pu lire sur Internet qui va se dire bah là il y a une probabilité plus importante qu'il faut que je t'affiche tel mot ou tel mot.
C'est effectivement ce qu'on appelle du prédictif, à savoir ce qui va se passer dans la suite de manière la plus probable. Et ce qui se passe dans la suite généralement du meilleur des mondes à cette heure-là, c'est l'arrivée de Marcus Dupont-Bénard. Et ça, c'est du prédictif. Bonsoir, Marcus.
C'était prévisible. Bonsoir, François.
Et vous allez parler d'autres œuvres littéraires qui sont emparées, elles aussi, du numérique.
Oui, parce qu'on le comprend avec l'ouvrage de Nathalie Azoulay, le code informatique est comme une sorte de révolution technique qui se rapproche de l'électricité. Alors, je me questionne à quel point cette révolution pourrait créer une toute nouvelle société comme l'électricité l'a fait. Le virtuel peut-il changer le monde au sens le plus politique? Eh bien, en fait, c'est déjà un peu le cas. Nous avons maintenant une double vie, la vie réelle et la vie numérique. Souvenez-vous quand, dans la série Mister Robot, Robot, le personnage principal déjouait des criminels qui se croyaient anonymes et donc à l'abri, car sur Internet.
Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau, jusqu'à ce que je remarque un truc chelou. Et là, j'ai décidé de vous pirater. Vous m'avez... Je sais que vous avez un site qui s'appelle Les Garçons de Platon.
Je vous demande pardon.
Vous passez par Tor, ce qui permet de rendre les serveurs anonymes. Vous brouillez les pistes au maximum pour que personne vous grille. Mais je vous ai grillé. En fait, le routage en oignon n'est pas aussi anonyme que vous le croyez. Parce que la personne qui contrôle les nœuds de sortie est aussi celle qui contrôle tout le trafic. Ce qui fait donc de moi celui qui contrôle tout.
Mais on peut se demander ce qui se passerait si le virtuel et le réel finissaient par être davantage indistincts.
Et est-ce que Marcus, le numérique pourrait bouleverser encore davantage notre façon de communiquer ?
Bah pour le savoir, il faut lire la trilogie de la transparence de Benjamin Fogel. Dans le premier livre, La transparence selon Irina, on est en 2058 et devinez quoi ? La transparence numérique est totale. Vos données personnelles sont un bien public. On ne peut plus vous les voler, mais vous ne pouvez plus non plus les cacher. L'auteur imagine même un drôle de renversement. C'est dans la vraie vie que l'on prend parfois un pseudo pour rester anonyme. Alors, au début, cette société semble entretenir une sorte de paix sociale, elle accompagne même la fin du capitalisme et elle génère un système de santé robuste. Mais il y a un revers de la médaille qui vire peut-être à la dystopie.
Une ère donc de la transparence totale qui aurait quels effets sur la société ?
Cette question est bien explorée dans le troisième tome qui vient juste de sortir. Il faut le lire, L'absence selon Camille. Je vous rassure, il peut se lire indépendamment, même si je vous conseille évidemment les deux autres tomes. Et dans ce livre, Benjamin Fogel y décrit une reconfiguration de la vie politique en 2060 avec de tout nouveaux partis, chacun plus ou moins favorable à la transparence. Et puis il y a les Obscuranets, un mouvement qui lutte dur comme fer contre une société basée sur le virtuel jusqu'à des actions insurrectionnelles. L'intrigue se base sur un graffiti diffusé dans tout Paris. Malgré la transparence, on vous ment. Mais comment un mensonge serait possible si on ne peut plus rien cacher ? Alors c'est une œuvre d'anticipation magistrale d'acuité, aussi glaçante et intelligente qu'un bon épisode de Black Mirror, parce que tout au long de cette trilogie, Benjamin Fogel nous bouscule en nous montrant comment le virtuel codifie notre existence. Il présente l'informatique comme une chose bien réelle, puisque ça change notre façon de communiquer, que ça change notre langage, cela change aussi notre façon d'exister.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard pour cette chronique littéraire. Peut-être une réaction Nathalie Azoulay, on a parlé de transparence, j'imagine que c'est un mot qui vous parle également.
Oui, enfin moi je me suis pas du tout située sur ces positions-là, c'est-à-dire que mon livre est tout sauf politique, il n'est pas du tout futuriste non plus, donc il n'est pas en train de prédire de manière dystopique un avenir cauchemardesque. Au contraire, j'ai essayé de calmer le jeu, j'ai essayé de me mettre à côté des codeurs et de voir ce qu'ils font et de voir qu'ils sont pour la plupart des gens très raisonnables, que les machines sont encore commandées par des humains et pour longtemps. Et donc j'ai des visions beaucoup plus paisibles, alors peut-être qu'elles sont naïves, mais je n'arrive pas du tout à me projeter vers ce genre de crainte ou de peur.
C'est tout l'intérêt, je trouve, de Python, parce qu'il y a parfois un peu une facilité à projeter un monde dystopique en couchant finalement sur le papier de nos nombreux fantasmes. Vous arrivez à faire du quotidien très réaliste, hein, parce que Python est très documenté, quelque chose de romanesque, et c'est une grande réussite de ce Python que je ne peux que recommander à nos auditeurs et auditrices. C'est sorti au début de cette année. Je recommande également l'ouvrage d'Erwan Kézar, du no-code, une nouvelle génération d'outils numériques. On est moins dans la littérature Erwan ici, mais en tout cas on est dans des solutions concrètes pour imaginer donc ce mouvement qui a un avenir et qui est loin d'être concurrentiel à une école 42 représentée ce soir par Olivier Crouzet, qui va continuer donc à exister après ces 10 ans qui ont été fêtés l'année dernière. Merci à tous les trois pour ces trois regards finalement assez singuliers et différents sur le monde du code. J'espère qu'il vous a éclairé et que ce monde est un peu moins mystérieux, même s'il faut qu'il le reste pour que sa charge romanesque demeure. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, accompagnée par Ludine Storelli, à la réalisation Perret Legras, à la technique son ce soir Anthony Thomasson, et à la vidéo Félix Delacour. Le meilleur des mondes s'est terminé, rendez-vous évidemment la semaine prochaine.